Merci. Merci Seigneur. Donc comme c'est une suite, je donne un petit résumé, mais très 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 résumé. Donc l'idée des deux prédications, c'est de se pencher sur Genèse 1, 2 et 3, et de réfléchir au sens. Avec les deux significations du mot sens, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie, mais aussi vers où ça pointe. Dimanche, il y a deux semaines, on a relevé que la création du monde et de l'homme est rapportée dans la Bible en deux volets. Et c'est impropre de parler de deux volets parce que c'est plutôt deux rapports qui se superposent et qui disent la même chose, mais avec quand même, voilà, pourquoi il y en a deux. Dans Genèse 1, on a vu que Dieu crée l'homme avec le privilège incroyable d'être son image. Et c'est la vocation de l'homme qui est de représenter Dieu auprès du reste de sa création, qui est de dépendre de Dieu, qui est d'entendre Dieu, leur parler, et ce qui implique de le connaître, au moins jusqu'à un certain point. Je ne me souviens pas si je l'ai dit il y a deux semaines, mais le chapitre 1 de Genèse ne relève ni manque, ni problème. Ensuite, il y a le chapitre 2 qui rapporte de nouveau la création et la partie qui se distingue vraiment du premier chapitre, c'est à partir du verset 4. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés, etc. On dit, bon tiens, Dieu fait redire les choses. Et là, on voit, bon, de nouveau, la création de l'homme, etc., la femme ensuite, bon, on en a parlé. Et puis, on voit qu'il y a les deux arbres au milieu du jardin. Et donc, on va être obligé de s'arrêter encore un peu là-dessus. Dans le chapitre premier, l'être humain est limité. Pas de limite, c'est une idée qui vient du diable. L'être humain est limité parce qu'il dépend de son créateur. Et il faut qu'il mange, par exemple. Donc il est limité. Et dans le chapitre 2, il y a des limites qui s'ajoutent. Et il y en a une, hein, nette, il y a un arbre dont tu ne peux pas manger. Voilà. Nous avons dit que Dieu ne dit pas à Adam de choisir entre l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et mal, de maîtrise du bien et mal, de ce domaine réservé à l'Éternel. Il ne lui dit pas de choisir entre les deux. Il lui dit, tu manges tout, et celui-là, tu ne manges pas. Ce n'est pas pareil. Hein? Voilà. Et puis après, il y a eu le chapitre 3, qui commence par les mots, le serpent. Voilà, et on a vu la rupture, c'est plus qu'une chute, c'est pas une chute par accident, par ignorance, c'est une rupture d'avec Dieu, et on a vu que rien ne la justifie, et que chaque fois qu'on veut expliquer comment c'est possible que ce soit arrivé, on recourt à des anachronismes. Alors par exemple, il y avait de l'orgueil dans le cœur d'Ève, mais oui, mais il n'y avait pas encore le péché. Bon, vous voyez, etc. Donc, et il n'y a pas d'explication parce que le texte n'en donne pas. Si vous voulez, le texte explique par quel biais la rupture est arrivée à cause du serpent, mais n'explique nulle part, ne donne aucun élément pour dire comment la rupture a pu arriver, puisque en eux il n'y avait ni péché, ni frustration, ni etc. Voilà. Le mystère de l'iniquité. 2 Corinthiens 2, verset 7. Alors, pour aujourd'hui, je propose en trois fois une première partie, comme je l'avais annoncé déjà, de passer en revue dans le chapitre 3, bon, un peu vite bien sûr, mais quand même, de passer en revue les effets de la rupture, les méfaits du péché en eux et autour d'eux, d'une part. Ensuite, les sanctions de Dieu. Et ensuite, les bontés de Dieu. Alors, chapitre 3, verset 7, donc tout ce qui a précédé, on l'a lu. J'ai toujours du mal à sauter des parties du texte. Mais bon, on a pris du temps, hein, dimanche, il y a deux semaines. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, une fois qu'ils ont mangé du fruit de cet arbre défendu. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Et là, on voit le premier méfait. Le serpent avait dit, vos yeux s'ouvriront. Jusque-là, factuellement, c'était correct. Et vous serez comme des dieux. Eh bien, le texte dit, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils ont eu un problème. Au lieu d'être promus à... C'est impressionnant le contraste entre la parole de séduction, fausse promesse, vous serez comme des dieux, et puis ce qui arrive en vrai, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, ce qui tout de suite implique un problème de relation entre eux. Alors, parce que le dernier verset du chapitre 2, c'est dit, l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient aucune honte. Donc ça dit bien qu'ils n'avaient pas conscience du mal. Enfin, être nus, c'est pas mal, pardon. Mais que rien ne leur posait problème. Voilà. Donc, et puis, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier. Donc voilà, vraiment, se cacher l'un de l'autre. Voilà. Et depuis là, les humains ont des problèmes relationnels. Et la solution n'est pas le naturisme. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin au souffle du jour, littéralement. Au souffle du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher de devant l'Éternel. Parmi les arbres du jardin. Donc là, il y a une altération du cœur, non seulement dans leur propre conscience, non seulement l'un vis-à-vis de l'autre, mais de devant leur Créateur, avec qui, jusque-là, chapitre 1 et chapitre 2, on peut creuser tout ce qu'on veut, avec lequel Créateur, il n'avait aucun problème. Et là, d'un coup, donc ça en dit long sur la virulence du péché. Ça altère tout. C'est pas pour rien que la saine doctrine implique de croire que par la rupture, par le péché, l'homme est dépravé en profondeur, déformé. Voilà. L'Éternel Dieu appela l'homme, lui dit, où es-tu? Ça, on y reviendra. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, mais je me suis donc caché. Alors là, on voit lire. Alors j'ai eu peur, ça a été souvent souligné. Premier mot qui sort de sa bouche, après le péché, j'ai eu peur. Et puis la peur complètement irrationnelle, parce qu'encore nu l'un vis-à-vis de l'autre, que ça commence à poser un problème. Nous, aujourd'hui, on l'imagine sans peine. Mais nu devant Dieu, en quoi ça pose problème? C'est le Créateur. Je me suis donc caché. Donc il y a une honte vis-à-vis de Dieu même. Donc les choses se tordent. Ensuite, l'Éternel Dieu dit, verset 11, « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Vous voyez quelque chose qui avait une manière de savoir la chose qui n'est pas de Dieu. Vous voyez, tout savoir et toute connaissance ne viennent pas de lui. Beaucoup sont faussés. « Qui t'a appris que tu étais nu ?» Eh bien, C'est à cause, voilà, le péché a déjà marqué sa conscience. Pourtant, ils n'avaient pas encore commis des horreurs. Hein. Il n'y a pas encore Abel, Caïn qui tue Abel. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors c'est la femme de nouveau, bon, dans un sens factuellement, ok, mais ça dit clairement, c'est une disharmonie, voyez, la virulence du péché, disharmonie, il n'y a plus l'harmonie, c'est, voilà. Et puis, plus grave, pardon, un petit mot sur cette disharmonie, Dieu dira plus loin à Ève que ton mari dominera sur toi, donc ça c'est pas un commandement, même si une autorité légitime dans les termes et avec les nuances que les textes donnent, mais c'est pas dominé. Dieu a ordonné de dominer sur le reste de la création, mais pas sur d'autres humains. Voilà. Donc, cette disharmonie, quand Adam dit c'est la femme, il est déchu hors de la beauté et du privilège du vis-à-vis. Vous voyez, elle sera vis-à-vis. Et là, il n'est plus là-dedans. Voilà. Les méfaits du péché, c'est chaque fois détruire quelque chose que Dieu avait fait. Et qui, voilà. Mais toujours au verset 12, c'est la femme qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé, mais il précise que tu as mise auprès de moi. Et là, c'est de tout ce qu'on a lu jusque-là, c'est le plus grave. C'est là où on voit le plus une influence du mal dans, puisque leur conscience a changé, voyez, la femme que tu as mise, alors là, on n'ose presque pas penser que ça signifie c'est ta faute, mais c'est à peu près ça, hein. Et c'est impensable, quand on lit chapitre 1 et chapitre 2, c'est impensable que la créature heureuse, comblée, choyée, innocente, etc., puisse en si peu de temps dire ça. Bon, évidemment, ce qu'on retient, c'est que c'est la virulence du péché. Être convaincu de la grâce de Dieu ne signifie en aucun cas avoir finalement compris, maintenant qu'on est adulte, que le péché n'est pas si grave que ça. C'est avoir compris à quel point le sacrifice, la patience de Dieu, sa grâce, la grâce du Père, qui manifeste son comble par le sacrifice de son Fils. Et c'est ça, comprendre la grâce. Mais si quelqu'un s'imagine que parce qu'il minimise la gravité du péché, spécialement le sien, et s'il s'imagine qu'il a mieux compris la grâce que les autres, là il faut se repentir à toute vitesse. Hein. Il n'a pas mieux compris, il a plus mal compris. Voilà. Et puis ensuite, verset 13, alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite, ou induite en erreur, m'a séduite, et j'en ai mangé. Donc là, c'est factuel. Le serpent l'a séduite. Alors, depuis des décennies, j'entends, oralement ou pas, ou en lisant, que certains font le parallèle entre Adam qui dit « c'est la femme » et Ève qui dit « c'est le serpent ». Il n'y a pas de parallèle. Ce n'est pas du tout sur le même plan. Adam, il brise le vis-à-vis et il accuse Dieu quasiment. Et Ève, on va dire, elle accuse le serpent. Mais le serpent, c'est le premier pécheur. Lui, on peut l'accuser, c'est vraiment sa faute en premier. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, le diable pêche dès le commencement. Et c'est seulement pour ça qu'ensuite les hommes ont péché. Donc Ève, Adam et tous les pécheurs depuis, donc tous les humains, donc à part le Seigneur Jésus incarné, Ève, Adam sont premièrement victimes et deuxièmement coupables. Alors cette culpabilité est réelle, elle est lourde, on va le voir tout à l'heure avec les sanctions, mais premièrement victime. Alors pourquoi je souligne ça? Pas spécialement pour me faire bien voir des dames, même si c'est une horreur de prêcher que Ève était déjà, qu'elle avait déjà le germe du mal en elle, etc. C'est une horreur absolue de prêcher ça, et ça a été fait pendant des siècles. Mais le fait que Ève dise « le serpent m'a séduite », c'est pas seulement une factuelle, c'est qu'il y a là une lucidité qui va être indispensable au long de la vie après. Parce que tant que l'humain ne prend pas compte de l'influence du diable sur lui, il est plus que myope cet humain. Et il va essayer toutes sortes de solutions pour se défaire de ses problèmes avec des outils humains. Voyez ? Donc, nous ne soulignons pas la responsabilité première du serpent, en l'occurrence derrière le serpent, le diable, pour dédouaner l'humain, pour lui chantonner que c'est pas si grave finalement, bon, t'as mangé un fruit de plus, il n'y a pas de quoi, voilà. Non, nous le soulignons parce que le texte le souligne, le chapitre 3, il commence comme ça, le serpent. Et donc on a relevé, hein, qu'on ne sait pas d'où il vient, que c'est impressionnant. C'est une grosse anomalie dans l'histoire. Voilà. Et donc bien sûr, des effets virulents ultérieurs, ben, il y en aura. Voilà, Caïn qui se dresse contre son frère. Et puis, donc Genèse 4, et puis Genèse 6, verset 5, et puis 5, que l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour, le cœur de l'homme, ne concevait que des pensées mauvaises. Alors le virus, là, il a proliféré, hein. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit en parlant des temps plus tôt de la fin, quand il dit « à cause de la multiplication de l'iniquité ». C'est le sens, hein. Alors c'est traduit « les progrès de l'iniquité », mais le mot il est impropre, c'est pas un progrès, c'est un déprogrès. Voilà. Alors, les effets, les méfaits. Ensuite, les sanctions. Donc il y a un angle où on voit le résultat de la rupture par les méfaits. Il y a un autre angle, c'est les sanctions de Dieu, et là elles disent plus que les méfaits. Les méfaits disent que c'est hyper mauvais pour la créature, mais les sanctions de Dieu disent c'est hyper grave aux yeux du Créateur. Voilà. Alors, 3 verset 16. Alors, les parties là sur lesquelles je dis rien, on y viendra tout à l'heure. Donc, chapitre 3, toujours, hein, verset 16. Il, l'Éternel Dieu, dit à la femme, je ferai abonder ta peine dans les grossesses. C'est avec peine que tu enfanteras. C'est avec peine que tu accoucheras. Dieu avait simplement dit, soyez féconds, multipliez. Alors, moi je ne suis pas de taille à dire, est-ce qu'il y aurait eu quand même une certaine douleur ou pas à l'accouchement avant, ça, peu importe, mais il dit, je ferai abonder. Donc là, c'est Dieu. Ensuite, il dit au verset 17 à l'homme, il dit à l'homme, oui, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Donc le problème là, c'est parce que Dieu l'avait dit à Adam, Et dans le chapitre 2, avant même de créer Ève, donc il y avait une responsabilité, parce que tu as écouté, le sol sera maudit à cause de toi. Et là on voit c'est une sanction de Dieu, c'est pas un effet, parce qu'il n'y a que Dieu qui a autorité de maudire dans la Bible. Quand Goliath maudit David par ses dieux, par les dieux de Goliath, donc par des démons, qui c'est qui meurt dans le quart d'heure qui suit? Oui, merci. Alors, le sol sera maudit à cause de toi. Et Dieu avait précédemment dit que la terre fasse verdir, que le sol verdoie d'un verdoiement de voilà. Aujourd'hui, on dit de végétaux. Là, il dit, voilà. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Alors qu'au départ, Dieu avait simplement dit, voici que je vous, au chapitre 1er, puis il redit au chapitre 2, voici que je vous donne toute herbe verte, tout arbre portant sa semence et donnant du fruit, je vous donne. Il n'y avait pas, il n'a pas dit avec peine là. Et là, c'est avec peine que tu tireras ta nourriture, que tu en tireras tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, de la broussaille, tu mangeras l'herbe de la campagne, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Au départ, être poussière, ce n'était pas un problème. C'est pour ça qu'il n'est pas légitime de haïr le corps, de haïr le physique, de penser qu'il n'y a que le spirituel, que le... voyez. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, donc c'est pas un problème d'être poussière, mais avec le péché, oui. Voilà. Encore dans les sanctions, alors ne vous étonnez pas que je saute certaines parties, on y viendra avec les bontés. L'Éternel Dieu, verset 22, l'Éternel Dieu dit: maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et mal, évitons qu'il tente. Voilà. Alors, je le lirai ensuite. Devenu comme l'un de nous, ça ne veut pas dire qu'il est devenu Dieu. Voilà. Ça veut simplement dire qu'il n'est pas, il n'a le domaine de la maîtrise du bien et mal, domaine moral et bien plus que moral. Ce domaine-là, il ne nous l'a pas laissé à nous. Il s'en est emparé en partie. Et il se pose en décideur de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et là, la sanction de Dieu, c'est: évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. C'est impressionnant. Cet arbre-là, il était au milieu. C'est de celui-là en premier qu'il est dit qu'il est au milieu. Et puis après, le sens... On comprend que l'arbre de connaissance du bien et mal est au milieu aussi. C'est les deux arbres centraux. Il est au milieu, et donc sans la rupture, sans le péché, eh bien, c'est impeccable. C'est le sens littéral du mot d'ailleurs. Impeccable, c'est qu'il ne pêche pas. Hein. Et puis avec le péché, ben, Dieu lui-même, Il empêche. Alors, il a été relevé souvent pour que l'homme ne vive pas éternellement en état de péché, probablement l'idée. Il y a deux semaines, j'ai suggéré imprudemment que Adam et Ève n'avaient pas mangé de l'arbre de vie avant, puisqu'il semble que cet arbre donne la vie éternelle. Ça se tient. C'est imprudent, parce que quand Dieu dit « tu pourras manger de tous les arbres », littéralement c'est l'Éternel Dieu donna cet ordre à Adam de manger de tous, et donc de celui-là aussi au milieu. Donc de ce point de vue-là, on peut dire « ah, ils en ont mangé ». Alors, je vais en rester, donc je me remets dans une position de prudence, et je vais en rester à relever que le texte ne dit pas s'ils en ont mangé ou pas. Et donc, il ne m'appartient pas de le dire. De toute façon, avec la vie éternelle, il y a du mystère. Et puis, verset 23, l'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré après avoir chassé l'homme. Il chasse son image. Il chasse son image. Sa créature privilégiée, choyée. Ah, si avec ça on soutient que le péché, c'est pas grave, c'est pas ce qu'il nous faut. Ce sont des textes qui nourrissent la crainte de, une saine crainte de Dieu. Et il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc vraiment empêcher, empêcher. Alors bien sûr, nous on sait que plus tard Dieu va ouvrir le chemin de mais là, pour le moment, il faut rester avec ce qui est écrit. Donc, on a parlé des effets, des méfaits, on a parlé des sanctions. Ouais. Et maintenant, des bontés. Il y a des bontés de Dieu. Dès le début, hein, par exemple, l'Éternel appela l'homme. Dieu, il sait très bien ce qu'il dit. L'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Ça, c'est, Dieu, il sait où il est. Mais c'est juste pour que l'homme entende, là quand même, entende que Dieu ne l'abandonne pas. Et le cherche. Donc, ça, c'est le premier geste de bonté. Même la question, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? C'est une bonté. Parce que ça met l'homme en lumière. Et le pire qui pouvait arriver à Adam, c'est de rester caché, et admettons que l'Éternel se retire entièrement, alors là, on n'ose pas, même pas, déjà que la suite, c'était une horreur, et là, on ne peut même pas l'imaginer, la suite. Mais Dieu amène une lumière sur la faute. Mais si Dieu, par son esprit, ne mettait pas de lumière sur le péché d'un humain, jamais cet humain ne se convertit. Voilà, donc c'est une bonté de Dieu. Ensuite, j'ai oublié que bien sûr il y avait des sanctions ultérieures. Hein. Dieu qui pose pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn et qui maudit Caïn d'ailleurs, bon, etc. Bon, ok. Puis la grosse sanction ultérieure, c'est la décision du déluge. J'effacerai l'homme que j'ai créé. Il faut le lire ça quand même. Mais c'est Dieu, seul sage, seul juste, seul bon, seul souverain. C'est Dieu qui dit j'effacerai. Finalement, le déluge, donc là je fais un tout petit retour dans les sanctions. Le déluge, il a le même message que le renvoi du jardin, qu'il renvoie. C'est l'horreur du péché aux yeux de Dieu. Je reviens au geste de bonté. Dieu fait la lumière. Et ensuite, maintenant, peut-être certains seront étonnés. Et moi, le premier, je l'ai été quand ça m'a apparu évident. Le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. On lira la suite après. Ça, c'est une bonté de Dieu envers Adam et Ève. Envers Adam et Ève. Et c'est la première sanction, chronologiquement. On a lu tout à l'heure les douleurs et la peine. C'est le même mot, peine pour la femme et peine pour l'homme. C'est le même mot, hein, dans le texte original, mais ça, c'est Dieu le dit après, c'est-à-dire que avant, entendons, avant de sanctionner Ève, Adam, Dieu maudit le serpent. Et vous savez qu'à la fin de l'Apocalypse, il est commandé de se réjouir du jugement de Dieu sur le mal. Donc, alors c'est très étonnant que la malédiction soit prononcée, que Dieu l'a dit au serpent. Tout à l'heure, je dirai un mot sur le fait que Dieu n'a pas dévoilé à Adam et Ève qu'il y a le diable derrière. Ça, c'est un des points, c'est un point dans le texte, ça. Il le dit au serpent. Adam et Ève ne sont pas conscients de qui manipule le serpent. Et donc, mais Dieu quand même prononce là une malédiction. Et maudit, ça veut dire un décret de Dieu, décret de condamnation sans retour. C'est ça, quand Dieu maudit. Il est le seul à avoir l'autorité de faire ça, évidemment. Voilà. Mais cette malédiction de l'ennemi, dirons-nous aujourd'hui, avec un certain anachronisme, parce qu'ils ne savent pas trop. Enfin, ils savent si que le serpent les a bien piégés, donc oui, si, c'est pas un anachronisme, c'est leur ennemi, il apparaît comme leur ennemi, eh bien, que lui soit maudit aux oreilles d'Adam et Ève. Pour eux, c'est un signe de bonté. Bien sûr, plus tard, il sera révélé que la condamnation vise le diable lui-même et pas spécifiquement l'animal dont il s'est servi. 3.15. Je mettrai inimitié entre toi, donc le serpent, et la femme. Je crois que c'est une grâce. Manquerait plus qu'il y ait amitié parfaite entre le serpent et la femme. Je crois que c'est une grâce. Dieu dit, je mettrai inimitié. Peut-être que quand on observe que chez tous les humains, dans toutes les cultures, il y a au moins un minimum, mais souvent pas mal, de haine du mal. La conscience s'oppose contre au moins certains aspects du mal. Je me demande si ce n'est pas simplement un résultat de ce qu'on vient de lire, que Dieu met inimitié entre le tentateur et la... Et l'humain, donc entre ton lignage du serpent et son lignage, ta descendance et sa descendance, au sens figuré pour le serpent évidemment, et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon, celle-ci te meurtrira à la tête. Alors, on a entendu, pour certains depuis notre petite enfance, que là c'est l'annonce de la venue du Sauveur qui détruira les œuvres du diable et qui vaincra le diable. Bon, à ce moment-là, évidemment, c'est plus l'annonce, cette annonce de Dieu que la descendance de la femme meurtrira le serpent à la tête. Cette annonce, elle est énigmatique à ce moment-là. Alors, quel est le bénéfice pour eux? Et savoir que Dieu prend les choses en main. On n'est pas obligé de comprendre tout ce que Dieu fait, mais il prend les choses en main. Voilà. Donc je répète, le serpent, premier pécheur, l'humain, deuxième pécheur. Et à ce stade, l'annonce de l'écrasement du serpent n'est pas faite directement à l'homme et à la femme. Elle est faite à l'ennemi, mais aux oreilles de l'homme et de la femme. Autre geste de bonté, évidemment, verset 20, l'homme donna à sa femme le nom d'Ève. Alors c'est étonnant que ça vienne au milieu, là, mais bon, il faut prendre comme c'est, hein. Ève, car elle a été la mère de tous les vivants, et hébreu, Ève, Blocher, il propose qu'on pourrait dire Viviane. On pourrait dire qu'elle s'appelle Viviane, c'est-à-dire tous les vivants, la mère de tous les vivants. Parce que Dieu avait donné du discernement et de la sagesse à Adam. On voit quand il donne les noms aux animaux, etc. Et que là, il donne à sa femme ce nom-là. Donc, ce discernement, il n'est pas entièrement disparu. on voit encore une bonté là. Et puis, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Et là, il y a clairement une autre idée qu'ils se sont fait des ceintures parce qu'ils avaient honte. C'est pas ils se sont fait, c'est Dieu qui leur fait des habits. Pas juste, parce que le texte précise, avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Mais là, c'est des habits de peau. Alors là, pareil, depuis notre plus tendre enfance, certains nous avons entendu que ça évoque une mort. La peau de qui ? Voilà. Alors de nouveau, le texte ne dit pas l'Éternel fit mourir un ou deux ou trois ou des animaux pour. Mais c'est une préfigure voilée encore, mais préfigure qu'il faudra un sacrifice. C'est pour ça aussi que Jésus dit. Plusieurs fois, Jésus a dit, il faut que le Fils de l'homme souffre. Il faut. Il n'y a pas beaucoup de « il faut » dans la bouche de Jésus. Mais ils sont tous extrêmement importants, tous clés. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, etc., etc., qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite. Voilà. Et, ah oui, pardon, j'ai lu tout à l'heure qu'il ferme l'accès à l'arbre de vie. En fait, il fallait pas... Enfin, on pouvait le lire sous l'angle des sanctions, mais c'est une bonté. C'est une bonté pour pas qu'il reste éternellement dans cet état, dans quelque chose de sans retour. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura des gestes de bonté ultérieurs. L'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel, souverainement, et pas sur celle de Caïn. Et même il avertit Caïn, hein, avant que celui-ci ne tue son. Bon, il y en a, voilà, Enoch qui marche avec Dieu, Noé qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Bon, les gestes de bonté se multiplient. Alors, à combien je suis ? On est. 37. Ça va. Ne t'angoisse pas. Je propose maintenant de réfléchir à la différence qu'il y a entre Genèse 1 et Genèse 2. Je l'ai déjà dit, Genèse 1 ne mentionne ni manque ni problème. Genèse 2, et c'est la raison, la différence, c'est la raison pour laquelle il y a deux récits. Ce n'est pas parce que certains ils croyaient qu'il y avait un Dieu qu'on appelle Dieu et d'autres croyaient, vous voyez, il n'y a pas deux auteurs, certains se sont plus à affirmer ça, mais bon, passons. Dans le deuxième récit de la création, donc le chapitre 2, il y a quelque chose qui est totalement absent du chapitre 1er. Il y a des pas encore, et des ne pas. Par exemple, le chapitre 1er, quand il dit que c'était vide, ne dit pas il n'y avait pas encore la lumière. Ou on ne dit pas qu'il n'y avait pas encore les âmes vivantes animales, ou ne dit pas que, etc. C'est simplement une chose après l'autre, Dieu fait comme il veut, et tout est bon. Dans le chapitre 2, tout est bon aussi, sauf une chose, on va être obligé de s'y arrêter, c'est l'un des gros ne pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais d'abord, je ne vais pas m'arrêter sur les détails, mais chapitre 2, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre, verset 4 au milieu, et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne. Donc ça souligne que c'est pas fini, que c'est pas achevé, si vous voulez. Et aucune herbe de la campagne ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Entre parenthèses, il y avait une culture quand même, mais pas avec la peine. Mais une vapeur, c'est le, donc pas encore. Ensuite, que je m'égare pas, merci Anne-Marie, mais ensuite on arrive au verset 9. Il mit l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et mal. Alors là, il n'y a pas le mot pas encore, mais il y a le mot mal. Et on l'a bien souligné déjà il y a 15 jours et encore aujourd'hui. Ça signale cet arbre, donc en aucun cas ne signifie que Dieu a mis du mal en Éden, je le répète, en aucun cas, mais ça signifie que ailleurs, il existe. Pas là, mais ailleurs. Donc on a un deuxième récit de la création où des manques sont explicitement relevés, pas encore, pas ça, pas encore, et où un problème, un vrai problème, est relevé. Le texte le relève. Et si je ne me trompe pas, c'est la principale raison d'être du récit de la création en deux fois. En deux fois. Parce que la deuxième fois nous amène à réfléchir. La première nous amène juste à être reconnaissant et à être adorateur et reconnaissant et innocent et des cœurs d'enfants. Pardon ? Job 38. Oui, c'est Dieu qui dit quand il veut parler à Job, et il commence par lui dire ce qu'il a créé. Alors qu'on peut dire, mais ce n'est pas le problème de Job, c'est Job qui souffre. Voilà, merci Anne-Marie. Tout est bon, mais cet arbre-là, le deuxième, il signale un problème. Quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Et Dieu dit carrément, tu mourras. Si tu en manges, tu mourras. Ça, il n'y a pas de mort évoquée au chapitre 1er. Donc ça nous fait réfléchir plus, c'est pour ça qu'il est appelé l'éternel Dieu. Hein. Je l'ai dit l'autre fois, le nom par lequel Dieu veut être adoré et connu, c'est parce qu'il est, c'est le nom de l'alliance. Et l'alliance, c'est ce que Dieu offrira pour remédier à la rupture. Voilà, ensuite... Donc ça dit, si vous voulez, dans le chapitre 1er, on peut s'imaginer éventuellement que la raison d'être de l'humain, de l'être humain créé et de toute la création est en lui-même. L'humain est en lui-même sa raison d'être. Et dans le chapitre 2, avant qu'il y ait péché, il apparaît qu'il n'est pas la raison ultime de sa création, puisqu'il est mentionné qu'il peut mourir, qu'il y a des interdictions. C'est impressionnant, l'image peut mourir. Maintenant, j'arrive au gros ne pas, verset 18 du chapitre 2. Il n'est pas bon que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors tout est bon, et là il dit, il n'est pas bon. Donc ça nous dit quoi ça? Ça nous dit, non, pardon, je vais dire beaucoup le verbe dire, que Genèse 1, 2, 3, le récit complet des débuts, ne nous dit pas tout de Dieu. Et il faut l'accepter. Il n'est pas bon, ça signale un état inachevé. Dieu avait prévu de créer en deux fois. Il n'est pas dit, il n'est pas du tout mentionné des âmes animales qu'il les ait créées en deux fois. Là, oui, il y a un dessein particulier. Ensuite, c'est extrêmement étonnant, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs. Donc là, le texte d'ailleurs, là, il n'est pas forcément chronologique. Et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme, les fit venir, pour voir comment il les appellerait, afin que tout être, toute âme vivante, porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, ici, c'est la forme souligne que c'est le nom, là, pour Adam, semble-t-il. Il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Dieu avait dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Il dit, il ne trouva pas. Alors, depuis que j'ai ouvert la Bible, je suis gêné avec cette phrase-là. Vous allez me faire croire qu'Adam, il a cherché un vis-à-vis parmi les animaux. Aujourd'hui, ça nous paraît impensable. Le texte ne dit pas qu'il a cherché. Sans doute ne pouvait-il imaginer ce que c'était ce vis-à-vis. Mais c'est le texte, c'est l'Esprit de Dieu qui fait écrire qu'il a discerné ce que Dieu a fait de chacune des autres âmes vivantes, mais il était toujours seul. Et donc, le fait que le texte précise qu'il ne trouva pas d'aide parmi les âmes vivantes animales, c'est une manière de crier combien le vis-à-vis qui va venir aura une vocation privilégiée, sera sur un autre plan que le reste de la création. Verset 21-23, « Alors l'Éternel fit tomber une profonde torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma, littéralement, bâtit. » Je ne sais pas s'il faut penser à Matthieu 16. Je bâtirai mon église. J'ai dit qu'il ne faut pas faire trop d'anachronismes. Je ne suis pas sûr, mais bon. L'Éternel Dieu bâtit une femme de la côte qu'il a prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Ce qui suggère qu'il attendait le vis-à-vis. Donc, quand bien plus tard nous lirons Éphésiens chapitre 5, quand Paul parle au mari et à l'épouse et qu'il leur dit « je dis cela par rapport à Christ et à l'Église », bon, bien sûr que là, les choses... Mais cette création en deux fois et en dérivé, c'est-à-dire que la deuxième créature est créée à partir de la première. C'est une parabole vivante de ce que Paul expliquera dans Éphésiens 5, évidemment. Toutefois, retenons bien, toutefois, en attendant cette révélation, il faut bien reconnaître que Dieu manifeste une bonté particulière envers eux deux en faisant d'eux un couple, mais c'est Dieu qui l'amène vers l'homme. C'est super beau ça, hein? C'est pas on se trouve, on se choisit là. Enfin, il est légitime que des humains se choisissent aussi, hein? Mais en faisant d'eux un couple, Dieu fait d'eux un lieu d'amour. Or, et on arrive vers la fin, ne vous inquiétez pas, or, c'est au sujet de l'absence de ce lieu d'amour, il n'est pas encore là puisqu'il n'y a que lui qui est créé. C'est au sujet de l'absence de ce lieu d'amour que le texte dit pour la seule et unique fois, il n'est pas bon. Alors, nous qui connaissons le Seigneur, qui lisons les Écritures, qui chantons « Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Dieu est amour » et qui lisons partout dans la Bible l'amour de Dieu, nous pouvons, à la lecture de Genèse 1, 2, 3, nous étonner d'une chose et nous étonner beaucoup. C'est que l'amour de Dieu n'est pas mentionné. Il n'est pas mentionné. Il est partout. Il est partout. Voici que je vous donne, etc. Rien que la faisons l'homme à notre image, voilà. L'amour de Dieu est partout dans le texte. Même pendant la rupture et même après, même dans les sanctions, il y a les bontés de Dieu, vous voyez ? Au milieu d'elles, voilà. Donc il est partout, mais il n'est pas mentionné. Grosse surprise. Non ? On pourrait dire, moi, si un humain avait décidé d'écrire quelque chose comme la Bible et qui sait que Dieu est amour, il aurait décidé que dès le début, il va poser ça comme socle premier, Dieu est amour. Mais cet humain-là est plus sage que Dieu, parce que Dieu a fait autrement. Mais c'est parce qu'il veut sauver des perdus, hein. Alors, quel bonheur. Et pourtant, assez vite après, dès qu'il y a alliance, l'amour de Dieu est mentionné. Hein. Combien ? 50. Je ne sais pas. Je vais m'arrêter. C'est sûr. Si, je sais à peu près quand, maintenant, là, bientôt. Mais c'est, je ne sais pas comment je vais m'arrêter. Alors, oui, peut-être. Peut-être une troisième prédication. Mais de toute façon, ce que je vais évoquer là, ça demande évidemment développement. Je suis en train d'écrire sur ce sujet. Je vais suggérer une raison à l'absence de mention de l'amour de Dieu. Voilà. Donc, c'est une grande surprise, cette absence. Ce silence, c'est une énorme surprise. Eh bien, sans doute s'explique-t-il par une surprise encore plus grande. C'est la non-mention du Fils. Puisque la suite de la Bible va dire qu'il est co-créateur avec le Père, et l'Esprit de Dieu est mentionné dès le deuxième verset. Et le Fils n'est pas mentionné, alors qu'il est co-créateur. Donc il est en aucun cas absent. Que l'arbre de vie l'évoque, j'ai longtemps cru que carrément il le représentait, je ne sais plus aujourd'hui, qu'il l'évoque, on peut dire ça éventuellement, mais il n'est pas mentionné. Alors, en quoi la non-mention du Fils explique que Dieu ne mentionne pas son amour ? Quel est le sommet de l'amour de Dieu dans la Bible ? Oui, alors l'offrande du Fils, mais ça c'est envers nous. Donc l'amour de Dieu envers nous. Est-ce que l'amour de Dieu envers ses élus, c'est le sommet de son amour ? Le sommet de l'amour de Dieu, c'est le Père aime le Fils. Jean-Baptiste, et il a tout remis dans ses mains. Jean-Baptiste dit, Jésus le redit, le Père m'aime et il me montre ce qu'il fait. Et il le redit encore, le Père m'aime quand je donne ma vie, etc. Mais d'autres versets encore, c'est l'amour, c'est, il y a, éternellement, il est le Fils engendré. Donc cet amour-là qui est en amont, est infiniment plus haut que le rapport de Dieu avec la créature. Cet amour-là, il est, voilà, c'est le sommet. Il sera ouvert aux élus, mais pas sur le même plan, parce que les élus resteront des créatures, alors que cet amour-là, il est de Dieu Père à Dieu Fils, dans cet ordre. Et n'oublions pas que Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Et même quand Jésus veut convaincre ses disciples à quel point il les aime, lui, et on en a besoin de ça, hein, qu'est-ce qu'il fait en, qu'est-ce qu'il leur dit d'abord? Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Ça veut dire que même quand tu veux mieux comprendre l'amour de Dieu pour toi, mieux le boire, le plus grand bénéfice, ça va être de méditer sur l'amour du Père pour le Fils. Voilà. Pour cette raison, quand on dit Jésus seul, au sens du verset qui a été lu, le seul nom, c'est légitime, Jésus seul, seul nom qui a été donné parmi les hommes. Mais dans l'absolu, nous adorons Jésus seul, ça c'est pas légitime, pas du tout même. Parce que c'est à celui qui est assis sur le trône, Dieu et à l'agneau. Donc par association au Père, voilà, je le relève en passant. Vous inquiétez pas, c'est pas seulement parce qu'on a chanté ça ce matin. Je le redis, ça fait la 50e fois que je le redis partout. Voilà. Ben écoutez, je pense que j'ai trouvé comment je m'arrête. Dieu a voulu donner un récit des débuts où il apparaît, au chapitre 1 ça n'apparaît pas, mais après 2 ça se sent et 3 ça, où il apparaît que tout n'est pas là. Que tout n'est pas là. De telle sorte, c'est pas par hasard que l'évangile ne promet pas à ceux qui croient de retrouver Éden. Le salut c'est pas retourner en Éden. L'idée de retrouver le paradis perdu, c'est une idée de non-croyant, en fait. Alors, c'est trouver quoi, le salut? C'est Dieu vous a appelé à la communion de son Fils. Or, dans Genèse... Alors, il ne faut pas que je reparte. L'amour de Dieu n'est pas mentionné, explicitement. Mais l'amour d'Adam vers son Créateur, pas mentionné non plus. Et une communion entre créateur et créature, pas mentionné non plus. On peut imaginer quelque chose comme ça, clairement, pas mentionné. Et donc, là, il faut entendre que tout n'est pas dit, tout n'est pas là, mais se laisser conduire par Dieu jusqu'à « Il vous a appelé à la communion de son Fils ». Et c'est en lui que vous êtes élu, c'est en lui que vous êtes adopté. Quelqu'un ce matin a béni Dieu de ce qu'il nous a adopté, mais c'est en son Fils. Amen. Merci notre Seigneur. Nous nous inclinons dans la reconnaissance, dans la joie, dans la crainte de ton nom. Nous te confessons, seul souverain, seul bon, seul juste, seul sage et seul sauveur. Amen.